Mendes tuorum visita in plus operna gratia quae tu creasti pectora qui diceris paraclitos altissimi donum Dei fonsevus signis caritas vevet spiritualis unctio tu septiformis monache destus paterne dextere tu rite promissum patris sermone ditons gutura accende lumen sensibus in fundamorem cordibus in firma nostri corporis ver tutte firmans perpetim hastem repellas longius facem quet ones protitus doctores ite previo vitemus omne noxio per te siamus da patrem nascamus atque filio teque utriusque spiritum creetamus omni tempore Deo Patricit Glachiam et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum secula Amen Emite Spiritum Tuum et omnia crabunto et renovabis faciem terrae. Oremus Deus qui corda fitelium sancti spirito illustratione docuisti da nobis in artem spirito ectas opere et de eius semper consolatione gauderem per omnem Christum Dominum nostrum Amen. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu ont quelque chose d'énigmatique. C'est vrai. Quelque chose d'inhabituel et aussi d'énigmatique. L'acte pur, la conjonction de la divinité dans les processions et la divinité de l'essence, dans l'acte pur, enfin, des processions, des hypostases, tout ça, c'est bien. Voilà, 5 est un chiffre, comme dit Moïse, qui appartient à l'ancré d'Elohim. D'Adonai Elohim dans son unité essentielle. Tout ça, on peut bien l'entendre, mais ça reste énigmatique. On peut considérer que les mots justes qui indiquent la révélation sur l'essence même de Dieu sont justes, véritables, sans tache, sans ombre, sans noirceur, mais ils peuvent aussi nous paraître énigmatique. En fait, ce n'est pas juste de dire qu'ils sont énigmatiques, parce que la vérité est simple. Elle n'est pas énigmatique. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas l'habitude de la vérité. Pourquoi ? Parce que nous avons les 132 vices contraires qui brouillent et rendent compliqué ce qui est simple. Et nous sommes, c'est sûr, un petit peu bousculés, ébroyés. On n'a pas la vertu de tempérance à cause de quoi nous voici transformés en passoires. Le corps, le cœur, l'âme et le sang qui sont en nous laissent passer. Laissent passer et ce qui nous étonne. Et ça les laisse passer et ça sort et ça va dans les secours. Si nous n'avons pas la vertu de tempérance, c'est sûr, nous voici comme une passoire, comme nous l'a expliqué Saint Hildegarde la dernière fois. La viridité n'est plus là. La viridité de la viridité de l'éther, la viridité de l'eau, la viridité de l'air à queue n'est plus en nous. Les éléments se sont décomposés et se sont, j'allais dire, transpercés, percés, disons, de part en part, de tous les côtés. Alors, nous sommes transformés en passoires. La vertu, donc, de virginité, la vertu de pureté du cœur, la très grande vertu de tempérance que l'ange de la face de Dieu séraphique nous apporte en nous faisant manger le fiel du poisson, comme on le voit dans le livre de Tobie avec Séraphin, nous apporte la guérison de la maladie. Les vices ont inscrit en nous une maladie. C'est la maladie du corps originel. Que le corps originel soit transformé dans notre corps adulte en passoire, autant de cellules nous avons, autant de transpercements. Alors évidemment, si la grâce nous est donnée, voilà que tout part, sort, s'écoule, ne demeure pas et ne déborde pas, mais s'écoule. Et ce qui sort de nous descend dans la terre. Si nous n'avons pas la vertu, elle est belle pourtant la vertu tempérance qui nous donne la virilité, nous fait retrouver la jeunesse. La sponsalité est une vertu de jeunesse, de lumière, hein, de nouveauté et de splendeur. On devient une coupe précieuse qui reçoit le nectar et au fond, c'est le fin du nectar qui repose. Alors, celui que nous aimons va pouvoir s'y retrouver et s'y délecter en dehors de lui-même, dans l'au-delà de l'unité des deux. C'est pour ça que l'esprit de virginité est si important pour nous. Et il faut pour ça que nous ayons la tempérance, la modération. Si vous préférez beaucoup d'amour dans les toutes petites choses, les moindres choses, les miettes, les choses minuscules, nous sommes attentifs à la moindre chose, la moindre occasion est pour nous notre cause de la pureté du cœur, un élan virginal pour pur, chaste, simple, merveilleux, la jeunesse de nos vertus. C'est important pour chasser un petit peu toutes cette chose que Saint Jean nous a expliqué dans l'épître avant-hier, qu'à cause de ce qui a dérivé du principe, nous sommes quand même sensibles à la concupiscence, nous sommes faibles à cause de la sensibilité, la concupiscence de la chair, cette tendance à ne pas avoir la vertu de virginité. Les filles de Caïn ont aggravé cela dans notre nature. Le déluge ne l'a pas effacé et nous portons les conséquences du choix mauvais de notre humanité avant le déluge. Ce choix mauvais que nous avons renouvelé cette année dernière. Cet renouvellement et le renouvellement de l'humanité du déluge dans l'exact acte et choix de l'humanité que nous avons fait. Donc. faut bien retrouver cet esprit de virginité. La maternité divine de Marie va nous virginiser jusque dans le point de vue des origines de la chair. Marie doit engendrer une autre chair, un autre sang, une virginité nouvelle. Bien sûr qu'on pourrait, comme à l'époque d'Aristote et des stoïciens depuis 2300 ans, acquérir à la force du bras les vertus de pureté. Mais aujourd'hui, nous voici sans force. Je veux dire, le fond de la passoire est pas seulement transpercé, il est déchiré de tous côtés. Nous sommes donc aujourd'hui une humanité de passoire, mais aussi une humanité de serpillère. Nous n'avons pas la force ni la vertu cardinale de tempérance avec la pureté, ni la vertu cardinale de force. Nous sommes des serpillères. Les serpillères, vous voyez, ne descendent pas dans les égouts parce que ça ne traverse pas la terre. Les serpillères restent par terre, mais en tout cas, elles ne peuvent pas se mettre debout. Elles sont flasques et collées à la boue. Elles font la boue et elles se collent à elles et elles ne se lèvent pas comme des enfants de lumière. Nous n'avons pas la vertu cardinale de force. Voilà déjà environ 90 ans que l'humanité a abandonné la formation en ses enfants de l'amour qui forme en leur cœur la vertu de force et la vertu de modération et de virginité du cœur. Et donc au bout de 90 ans, c'est-à-dire voici la quatrième génération qui est nous, eh bien nous sommes un mélange de passoire et de serpillère. Et l'union de la passoire et de la serpillère, c'est une union qui n'est pas sponsale. Il n'y a pas de complémentarité entre les deux. C'est une union homosexuelle déchue.
Mais oui, mais c'est pas vital.
Il y a donc une constatation, c'est que nous sommes sans force, ce qui explique notre peur déréglée, nos craintes déréglées, notre pusillanimité, notre inquiétude permanente, notre dépression, notre manque de force. Nous n'avons plus les vertus cardinales qui sont le trépied d'une humanité normale. Nous sommes vraiment et du coup nous accrochons à différentes branches, c'est-à-dire à toutes sortes de méthodes que nous allons chercher sur la toile. Comme si l'araignée pouvait tisser pour nous des méthodes, des voies pour nous donner des pour enlever, pour contrecarrer, dissoudre les vices qui sont en nous, l'absence de vertu, comme l'horreur, la nature a horreur du vide et la nature humaine a horreur du vide. Si les vertus n'y sont pas, alors les vices sont là. Et nous sommes donc remplis de ces vices. Alors on est par exemple mesquin. Au lieu d'être magnanime et humble, en voyant les choses en grand dans la force de vous, d'un oui où la petite espace et traverse tout en vainqueur. Voilà la magnificité qui conjoint l'humilité et puis la magnificence. Dans la libéralité, la droiture, la loyauté, la vénération de celui qui est avec moi parce qu'il est plus grand que moi. Alors je suis magnanime et je vois tout en grand. L'Immaculée, donc, Mère de Dieu, Maternité divine de Marie, va engendrer un monde nouveau que nous avons perdu. Et elle va nous donner cette virginité. Nous ne serons plus des passeurs. Ce que nous recevons, nous le sommes. Et nous y persévérerons. En la patience, la force, petit à petit, va naître de l'humilité. L'humilité va nous faire passer de la pureté à la force. C'est ce qu'explique saint Thomas d'Aquin. Pour passer de la virginité à la force, il faut l'humilité. Et donc, ce passage de la virginité, la pureté du cœur, à la force, passe par la toute petitesse du tout petit. Voilà pourquoi Saint-Père a expliqué que désormais l'évangélisation ne pouvait s'adresser que dans la nostalgie. Là où on est, où l'homme le pauvre est le plus petit. Nous-mêmes, nous allons retrouver cette petitesse, et c'est pour ça que nous faisons ces exercices continuellement depuis 5 ans. De véritable amour dans cette nostalgie, et des retrouvailles avec cette petitesse toute pure, de l'innocence divine retrouvée, restaurée, réactuée, surnaturellement splendide, dans la vertu de magnificité. Il va falloir que la vertu de force nous redresse et que nous passions donc de la serpillière à l'enfant qui est debout et qui est le roi et qui traverse et qui est source et qui rayonne et efface tout ce qui n'est pas la force de l'amour qui porte tout. Voilà pourquoi je crois que Saint Joseph nous est donné, notre papa, parce que Marie ne peut pas être mère sans que nous ayons un père. La maternité divine de Marie, dans laquelle nous commençons depuis hier et aujourd'hui, implique une fécondité dans la chair. La purification de la chair a commencé. Mais cette purification de la chair commence, et comme elle commence, elle va nous redresser si nous demeurons dans le sanctuaire du Père, dans la petitesse de la toute petite lumière que je suis. Et j'accepte ce que je suis. Je suis un être de lumière. Je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait vivre. Je ne suis pas ce que j'ai fait vivre aux autres. Je ne suis pas cela, ça, je le suis, je l'ai fait, j'en demande pardon, je pardonne tout, et je reçois le pardon pour tout, et au moindre mouvement. Je demande pardon, je pardonne tout, et je reçois le pardon en tout, et jusqu'à la racine de ma petitesse, jusqu'à l'accomplissement de l'Église tout entière. Combien de fois par jour je vais faire cela? Beaucoup, très souvent, jusqu'à ce que commence de manière continuelle, comme un petit ruisseau qui s'écoule sans s'arrêter, la purification de la chair. Notre âme est pure, notre âme. Mais notre chair ne l'est pas. Les enfants de la chair sont des serpillères et des passoires. Et ils se rencontrent les uns les autres en s'embrassant dans l'affection d'une spontanéité inversée et d'un esprit méchamisé. C'est ça la nature humaine aujourd'hui. Mais elle n'est plus une nature humaine. Elle est fécondée par le croisement de l'homme déchu, de l'animal déchu et de l'ange déchu. Splice. Voilà ce que nous faisons. Et il n'y a là plus rien qui relève de la nature. Mais à chaque fois que nous avons fait un acte d'adultère, à chaque fois que nous avons fait un acte de masturbation, à chaque fois que nous avons fait un acte d'impureté d'intention, d'esprit, un acte d'intégration, de contemplations inversées de la chair, un acte de laisser aller, de paresse, un acte de pusillanimité, un acte d'inquiétude, un
Oui.
acte de mesquinerie, un acte de pusillanimité, un acte de co-artiste. À chaque fois que nous avons fait un acte d'impatience, nous avons engendré en nous cette tendance à nous laisser aller dans le temps où nous ne posons plus d'actes, à l'intérieur de ce que la nature humaine est devenue, dans le croisement de l'homme déchu, de l'animal déchu et de l'ange déchu. Voilà ce qui s'est fait en l'an 2013. Voilà ce qui s'était fait l'année qui précéda le déluge. C'est le même acte. Nous ne sommes pas cette humanité-là. Nous ne pouvons pas dire oui à cette humanité-là, même si nous avons participé par des actes. Nous avons fait des actes consciemment et même en revendiquant que nous pouvions les faire. Nous avons revendiqué ce droit à avoir un bonheur sur la terre émanant de la volonté de Lucifer et en dehors totalement de la volonté immaculée, éternelle du Père. Et voilà que, à cause de ces actes, qui sont nombreux quand même, hein, ça ne s'est pas passé exceptionnellement une seule fois, eh bien, nous sommes tout de même dans un mauvais état. On dit, nous sommes pécheurs. Bon, ok, nous sommes pécheurs. Mais nous sommes dans un mauvais état. Si nous sommes pécheurs, on l'entend dans le psychique. Et du coup, le sentiment de culpabilité, ça nourrit le sentiment de culpabilité. La nourriture du sentiment de culpabilité, c'est pas bon, parce que du coup, ça fait naître la conscience de culpabilité. Du coup, la cristallisation, hein, le déni, le déplacement. Enfin bref, tout ce qu'il faut parler, les dérives négatives de la conscience de culpabilité. Alors, on est près de la psychose. On est déjà dans la psychose. Et quand on tourne sans arrêt sur ce lien encore entre la ténèbre, enfin, c'est-à-dire l'absence de la liberté du oui originel dans la sainteté accomplie, pour mettre toute notre attention, nos actes et nos efforts sur la proximité de l'animal, de l'homme et de l'ange déchu, à chaque fois, on y revient si on n'y fait pas attention. Il faut poser des actes, c'est sûr. Nous avons besoin d'un cœur. Donc la vertu de virginité, responsabilité, est très grande pour nous, dans la pureté. Elle est très très grande pour nous. L'Immaculée, la Vierge, la maternité divine de Marie, a engendré en nous une nouvelle source de vie, une ligne pure. Et cette ligne pure est une ligne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans notre oui. Et elle vient comme colmater du dessous notre Il faut que dans notre cœur, parce que Jean-Baptiste avait un cœur, lorsqu'il a reçu la visite du Seigneur, et la palpitation de cette petite semence qui fait la disposition d'acte premier de la présence ultime de l'Eucharistie de la fin, est en lui. Et il en est l'émanation dans le Saint des Saints, il est tout petit, mais il a un cœur quand l'union hypostatique de Jésus dans la maternité de David s'y conjoint. Et c'est cette conjonction qui fait naître en lui la pureté, la limpidité, la virginité et l'identification absolue en sa chair à la sponsalité de Dieu. L'époux est l'épouse. La voix des épousailles et celui qui aime l'époux, qui est un avec l'époux, est l'ami de l'époux. Et il entend l'épouse, il voit l'épouse et il entend l'épouse et que l'épouse est un époux. Voilà ce qu'il dit à ceux qui viennent l'interroger quand Jésus les envoie. Oh, vous allez me dire, ces paroles-là sont bien énigmatiques. Mais elles ne sont pas énigmatiques. Mais elles ne sont pas énigmatiques. Pas du tout. Pas du tout énigmatique. La virginité, la chasteté, la pureté, la tempérance, la vertu cardinale de tempérance vient rendre cette conjonction de fécondité de l'Immaculée Conception en maternité divine de l'Église des derniers temps en nous, elle vient se conjoindre à l'esprit tout petit. D'Élie, le prophète, de l'union transformante, je veux dire par là, de Marie et du corps, la chair du sang de Marie qui s'écoule en nous pour nous transformer en coupe merveilleuse du nard, du délice sublime et enivrant de ce parfum, cette liqueur qui fait la coupe de notre Père, de notre source dans la petitesse. La nativité d'une virginité nouvelle, du quatrième mystère lumineux, nous l'avons vu, est pour nous devenue nécessaire. Alors nous ne serons plus des serpillères. Et nous deviendrons, grâce à la virginité, nous verrons Dieu dans notre chair. Et voyant Dieu dans notre chair, nous voyons que Dieu est dans notre chair et dans le Saint des Saints de notre chair, dans son sanctuaire, ou dans le diamant, où la liberté du don le dispute à la présence toute glorieuse, toute merveilleuse, toute aspirante de la très sainte Trinité dans notre chair originelle. Et cette transformation curative de notre manque de virginité, de pureté, de limpidité, de vie contemplative, je ne parle pas de la vie contemplative comme ça, je parle de la vie contemplative de l'âme en lien avec la raison, là où les sources de l'amour apparaissent, vont pouvoir faire sourdre cette liqueur. Et cette liqueur nous mettra donc dans l'humilité, parce que elle nous mettra dans l'humilité, c'est-à-dire dans cette capacité à être à l'heure de Dieu. D'être toujours là en avance. D'être toujours là en avance. D'être parmi ceux qui sont dans la grâce de prévenance, c'est-à-dire de miséricorde. Parce que la grâce de prévenance est une grâce d'anticipation et une grâce de miséricorde. Nous avons dit oui à ce que nous sommes dans ce état, parce qu'il y a la coupe qui la retient. Alors, cette coupe qui la retient, c'est celle de l'humilité subsistante dans le principe. Et voilà que le Père est là. Il n'y a pas de maternité divine s'il n'y a pas la paternité divine du Verbe de Dieu venant dans la matière de notre chair. Et là, Saint Joseph est pour nous très réconfortant, parce que il rend en nous la possibilité, non pas de la grâce infuse d'humilité, mais de l'aspiration au retravail avec la petitesse. Et cette petitesse voit forcément toute chose en grand et nous fait immédiatement abandonner l'esprit mesquin, l'inquiétude, L'inquiet est mesquin. C'est un vice qui montre que nous avons perdu une des plus grandes vertus humaines, la vertu de force. Vous savez, il y a quatre vertus cardinales. La vertu de pureté, enfin de tempérance. La vertu de force. La vertu de prudence. Et la vertu de justice. Voilà les quatre vertus cardinales. Nous n'en avons plus, c'est sûr. Alors du coup, il y a la maternité divine de Marie qui nous est donnée par le Saint-Père. Hein? Et regardez comme nous avons ici, nous sommes dedans et nous écoulons de là, hop, nous repartons comme ça, dans le fond de l'instant présent. Et présomption. Parce que la présomption est un vice. C'est pas du tout une force. Et la présomption s'accompagne souvent, d'ailleurs, du jugement téméraire. Le jugement téméraire s'accompagne aussi du mépris de celui que nous condamnons. Et nous voyons bien que cette manière qui est celle des hommes qui n'ont pas reçu cette force, qui ne la recevront pas et qui ne l'auront pas, est une terrible, 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 terrible délabrement, désarmement. Le démon a attendu d'avoir réussi à désarmer tout le demeurez dans la patience. L'ennemi va sur vous. Et l'ennemi souvent, c'est notre propre manque de force et notre fragilité. Mais quelquefois, dans cette fragilité, la force de Satan et la force de nos ennemis pour nous ricaner et la force de la méchanceté du monde. Quand vous faites du close combat, par exemple, un type arrive sur vous, 3, 4 ou 5. Ce qu'on vous apprend, c'est que vous, vous êtes fragile. Vous n'avez pas de force. Ils arrivent avec la force de la violence. On vous apprend quoi? S'ils vont sur vous, à utiliser leur force quand ils arrivent. Vous utilisez leur force. Et ils se rencontrent derrière vous. Le fragile est plus fort que le violent. Mais il faut utiliser, c'est ça la vertu de force. C'est dans la petitesse de l'humilité, je prends les forces contraires et je les utilise, je les traverse et je demeure dans la patience. Et si cette patience demeure dans la longanimité, c'est-à-dire je ne condamne pas, je ne juge pas, alors elle devient héroïque dans la persévérance. Et dans la persévérance, la force nous relève dans le témoignage. Et cette force du témoignage nous vient de l'accomplissement de la fin. Et cet accomplissement de la fin nous vient du Père. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, ce que j'aurais voulu faire, c'est je ne sais pas si on pourrait le faire, c'est le Père, c'est-à-dire Saint-Joseph, enfin, le trône s'ouvre. et fait le chemin de croix descendant du ciel de l'accomplissement jusqu'à l'instant présent dans le cœur de Marie qui engendre en nous. Et donc sont ainsi dans le baiser du véritable amour du Père et de la Mère, dans le petit enfant que nous sommes du monde nouveau, il y a la vertu de virginité dans l'humilité de notre oui et la vertu de force qui nous met debout dans le face-à-face de Dieu dès cette terre. Et s'engendre ainsi surnaturellement en nous l'acquisition des vertus héroïques chrétiennes par charité surnaturelle pure. Pour ça, il faut apprendre à conjoindre en nous l'âme et le cœur. Parce que quand l'âme se conjoint au cœur, les deux se mélangent et il n'y a plus que ces sources du baiser du véritable amour dont nous avons parlé longtemps. Et de sorte que là, il n'y a plus de passoire, puisque la coupe est débordante. Hein? 160 000 stades. 1600 stades. 1600 stades. La purification 40 au carré. 40 fois 40. La purification à la puissance du Verbe de Dieu. Le Verbe s'est posé sur lui. Alors la miséricorde peut être faite à Israël. Et oui, pourquoi baptises-tu? Alors je réponds, pourquoi n'es-tu pas baptisé? Les prostituées, les publicains, les pécheurs, les myriades sont venus et vous, vous n'êtes pas venus. Nous devons être baptisés dans l'autel sublime et céleste. L'autel sublime et céleste, c'est un baiser du véritable amour de Jésus-Marie-Joseph dans l'embrassement, donc d'inspiration passive, de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu. Qui fait la nourriture, c'est bien là, dans la rencontre de la virginité communiquée à toute la terre, à tous les enfants de lumière. Et la force de la toute petitesse communiquée de manière royale, glorieuse et invincible à tous les enfants de la terre et les enfants de lumière, les deux se conjoignant dans le véritable amour. Voilà notre nid, vous comprenez? Mais c'est bien de comprendre ça, ce que disent déjà saint Thomas d'Aquin sur ce parcours, cette progression dans la loi éternelle de la conscience d'amour qui nous est donnée dès l'aspiration à un amour pur, parfait en chacun, à chaque être humain. Il s'y trouve à l'enfance, à la conception, à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, dans son choix. Il y a tous cette aspiration à l'amour pur, parfait et accompli. On a cette conscience d'amour, il y a cette loi en nous qui revient souvent. Personne ne peut nier, même les plus aveugles. Cette conscience d'amour structure l'unité profonde des qualités du cœur dont nous avons besoin. Mais comme nous sommes sans force et que nous sommes dans le temps où l'humanité s'est laissée transpercer, j'allais dire quasi essentiellement, substantiellement, universellement et en plus méchamisée, alors à ce moment-là, oui, l'heure est arrivée pour qu'il y ait l'advenu du cinquième sceau, l'ouverture d'une fécondité nouvelle, de qualité acquise, pas infuse. Parce que si nous rentrons dans le monde nouveau en disant voilà, je rentre dans le monde nouveau, et puis sans avoir fait aucun acte héroïque, aucun effort, pas, je ne vais pas faire 200 actes quand même pour acquérir les vertus de l'humilité par jour quand même, c'est fatigant quand même. Poser des actes contre le vice, faire des actes contre le vice, 100 actes contre mon vice de paresse par jour. Déjà au bout du premier, je suis très fatigué. Hein? Si le gourmand, le glouton, il fait un effort, il va faire quelque chose qui lui est très, 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 très désagréable. Il ne le fera pas 100 fois dans la journée, hein. Ça va le décourager. Et l'épître a bien dit, papa, maman, n'exaspérez pas vos enfants. Alors, nous ne pouvons plus faire ces actes. Il faut bien regarder le philosophe aujourd'hui, le sage d'aujourd'hui vous dira, l'humanité, nos enfants sont sans force. Nous avons fait des enfants déliquescents. Nous sommes nous aussi brisés. Et le démon a réussi à faire une humanité. Oh, il y a mis du temps, hein, la bête, le dragon rouge, la panthère à sept têtes, la bête sortie de la mer et la bête qui sort de la terre maintenant. Ça fait beaucoup, hein. En plus, il y a la marque.
Oui,
ça vous fait rire.
Oui, non, ça me fait rire.
Ah bon, tant mieux.
C'est beaucoup.
Oh oui, ça fait beaucoup quand même, la marque. Si nous avons une marque en nous, c'est-à-dire une blessure parce que nous avons été méchants. Ça nous est arrivé d'avoir été méchants. Dans l'injustice. Sans haine peut-être, mais méchant quand même. Dans une espèce de laisser aller. Ça a mis en nous une marque. Et nous portons en ce choix les conséquences de notre choix. Hein? Et cette marque donc qui est en nous, bah... elle cherche où se reposer et elle va chercher un autre être qui a la même marque que lui. Et il va y avoir un lien entre celui qui est marqué de cette donc notre humanité est prise par un tissu de marques qui se soudent les uns les autres, si je puis dire, et qui va s'ouvrir. La soif de la petitesse, de la virginité, de la force, cette soif de trouver l'admirable ascension à partir du principe de Dieu dans l'accomplissement de l'Église est inscrite désormais partout, parce que cette marque est insupportable. Et l'esclavage de la bête, l'esclavage de la panthère est insupportable à tous les êtres de vie. Donc l'aspiration est universelle à l'apparition de la liberté nouvelle qui n'a toujours existé. Elle est toujours là, mais nous ne la retrouvons pas. Nous pouvons la retrouver dans la virginité de Marie qui l'enchante et dans le baiser du véritable amour avec Joseph pour retrouver en eux, venant d'en haut, le corps originel qui est en nous et notre oui. Notre oui à l'être que nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière, nous ne sommes pas des êtres déchus. Nous sommes dans la déchéance, mais nous ne sommes pas des êtres déchus. C'est la chair qui finalement est, a besoin de purification. Alors c'est pour ça donc que dans l'heure de l'Apocalypse, dans l'heure de la purification, dans l'heure de la miséricorde, nous disons oui, de manière intrépide, avec beaucoup de vaillance pour nous disposer à cette force, retrouver beaucoup d'humilité, nous allons accepter de rentrer dans le pardon. Mais un pardon presque instinctif, j'allais dire compulsif, comme une respiration, même avec les lèvres, vous voyez ? C'est pour ça que moi, je vous ai proposé. Il y a des paroles qui doivent sortir de nous comme ça. Je pardonne, je demande pardon et je reçois le pardon. Je pardonne, je demande pardon, je reçois le pardon. C'est pas la même chose. Les trois, c'est pas tout à fait différent. Je pardonne, je demande pardon et je reçois le pardon. Vous avez bien les trois. La virginité, la force, l'humilité. Je pardonne, je demande pardon, je reçois le pardon jusqu'à la racine de moi-même. Et je dis oui à ce que je suis. À chaque fois qu'il y a un mot, un mouvement d'inquiétude, une mesquinerie, une vanité, je vais chercher un remède qui est incertain. Parce que l'araignée nous en propose beaucoup, hein, dans les nuages qu'il fait tomber. Beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas, de molécules. Alors, la vanité. Et on reste avec... Alors que le remède, Saint-Raphaël nous l'a expliqué, est dans le fiel du poisson. Sur les yeux. Voilà ce que l'ange séraphique nous a dit pour retrouver la pureté. Et il nous a dit que là, il y a la victoire sur Asmodée. Vous voyez bien, c'est la virginité. La victoire sur Asmodée, c'est sûr, est merveilleuse. Elle est très facile, extrêmement facile, dès lors que je suis dans les entrailles du poisson, c'est-à-dire l'Église qui a son fiel dans la souffrance qu'elle va porter, parce qu'elle porte les conséquences des mauvais choix de ses enfants. Alors, on demande pardon dès qu'on y pense, et spontanément, il faut ces formules. Je pense que ces formules ne sont pas si inutiles, parce que je demande pardon, je pardonne. Je reçois le pardon, je reçois le pardon jusqu'à la racine de tous les enfants d'Israël, de tous les enfants du monde, de tous les enfants du ciel, du Père. À chaque mouvement, je demande pardon, je pardonne et je reçois le pardon. Et puis, je demande pardon aussi pour le choix qui correspond. Je pardonne et je reçois le pardon. Je demande pardon pour tout ce qui a amené mon humanité à le faire, ce choix, avec ses conséquences. Je pardonne et je reçois le pardon à la racine. Et d'Adam, du coup, dans le principe d'avoir la création du monde, je traverse toutes les générations qui ont été abîmées et je demande pardon à la place d'Adam. Et de tous ceux qui, depuis Adam, ont vécu cette conséquence à cause du mauvais choix. Et je porte donc déjà, voyez, et dans le pardon, c'est ça le baptême de Jean-Baptiste. Il baptise dans l'eau. C'est la nature humaine. Il baptise dans l'eau. La sagesse créatrice de Dieu a fait une nature limpide, virginale, forte, divine, ressemblance de Dieu et impassible. Il baptise dans l'eau. Et je suis l'être de lumière, donc je vais faire des actes de purification de la chair tous les jours, presque. C'est pas une spiritualité, vous comprenez? On va dire, bah tiens, voilà, c'est une certaine spiritualité, voilà. Non, non, c'est pas une spiritualité comme dire, voilà, la spiritualité franciscaine, la spiritualité ignatienne, la spiritualité... Non, c'est pas une spiritualité. Hein. C'est le baptême dans l'eau. Je vous baptise avec de l'eau. C'est le baptême de notre innocence d'origine. Elle se renouvelle dans le pardon. Et on fait du coup miséricorde à chaque fois à tous nos frères, à tous nos sœurs. Et à force de faire ça, à force de faire ça, à ce moment-là, nous accueillons, pousse petit à petit en nous, pousse en nous cet acquiescement virginal à ce que nous sommes, parce que nous voyons ce que nous sommes, nous vivons ce que nous sommes, et nous trouvons du coup cette force en permanence. C'est ça le baptême qui nous prépare à l'ouverture du cinquième sceau, à l'avertissement si vous préférez, à pouvoir porter de manière virginale et d'une force invincible. Il y aura beaucoup de forces contraires pendant la demi-heure. Il se fera un silence d'environ une demi-heure et il y aura beaucoup de forces contraires. Est-ce que les démons seront tous tenus en laisse comme des chiens pendant la demi-heure de l'avertissement? Est-ce que les conséquences des mauvais choix ne seront plus là? Oh non! Est-ce que nos frères et nos sœurs ont, et nous-mêmes, la force? Oh, peut-être pas. Mais sûrement oui, si nous avons été baptisés du baptême de l'innocence, dans l'innocence divine et triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ dans les enfants, et si nous portons l'autel sublime et céleste pour recevoir le pardon, pour demander pardon et pour pardonner, pour faire miséricorde. Pour faire miséricorde. L'Immaculée Conception, la maternité divine de Marie, Saint Joseph, déjà avant, comme principe de l'Immaculée Conception, 19 ans avant elle, sont des êtres de miséricorde parce qu'ils ont puisé par le ministère de l'ange dans le oui de leur innocence divine qui demande pardon dans la lucidité de la loi du cœur, de leur conscience d'amour dès l'origine. Ils reçoivent cette absolution, ils sont cette absolution, ils reçoivent cette absolution immédiatement. Ils sont immédiatement dans le miracle des trois éléments avec l'ange pendant toute la période embryonnaire. Et puis ils rentrent dans le grand courant et ils se nourrissent de l'union hypostatique déchirée et de la miséricorde. Ils reçoivent la miséricorde avant même qu'elle se soit manifestée dans le cœur déchiré de Jésus par la lance. Et l'union, son union hypostatique à l'intérieur de... à l'intérieur de l'acte pur de la très sainte Trinité. Est-ce que vous avez déjà entendu que si Marie est immaculée dans sa conception, c'est pas à cause de ses mérites, c'est pas par privilège. J'aime pas ces trucs-là quand on disait c'est un privilège. Un privilège de quoi? Un privilège. C'est une miséricorde. C'est une miséricorde prévenante. Elle vient, c'est ça le dogme que le Saint-Père a prononcé en 1854. La dernière fois, je me suis trompé. 1854, c'est le dogme du Saint-Père. 1858, c'est l'apparition de Lourdes. Donc, 3 ans et demi entre les deux, 1290. D'accord ? Donc je reprends, je corrige ce qui est sur certains disques. Donc 1854, le Saint-Père proclame l'Immaculée Conception en disant cette Immaculée Conception, elle vient d'où? Mais elle vient par prévenance de la miséricorde de l'agneau, du coup de lance, l'eau, le sang, l'Esprit Saint, et ceci par Dieu. Et donc, le principe revient, parcourt toute la création du monde et fait apparaître l'Immaculée Conception. Elle reçoit la miséricorde de Jésus qui la sauve par miséricorde pure. C'est une miséricorde de prévenance, d'anticipation. La miséricorde, c'est toujours avant. Les êtres de miséricorde, Marie est un être de miséricorde par une grâce de prévenance. Jean-Baptiste, c'est aussi avant, il prépare. Joseph aussi prépare l'Immaculée Conception elle-même. Il y a quelque chose, d'ailleurs, d'analogue, comme grâce de prévenance en Saint-Joseph, 19 ans avant l'Immaculée Conception. Et puis l'Immaculée Conception, 36 ans avant l'union hypostatique des cieux de Jésus. Il y a quelque chose d'analogue. Hein? Parce que il faut aller jusqu'au principe. Parce que l'union hypostatique de Jésus a assumé même toutes les possibilités d'amour avant la création de la lumière et du ciel angélique et de la matière et du temps. Et donc il y a eu une justice de prévenance et une miséricorde de prévenance. Et les deux sont ensemble parce que dans le oui originel, nous acquiesçons à tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes pour toujours. Et donc la sponsalité entre l'époux et l'épouse sont là en lui. Dans l'annonce de l'ange qui lui est faite, dans la miséricorde prévenante. Et c'est pour ça qu'il deviendra 19 ans après, dans le mariage spirituel, cette source principielle, dans le temps de la miséricorde de Jésus, son union hypostatique, du Verbe de Dieu ouvert dans le sein du Père, ce Verbe dévoile en lui la blessure. Ce n'est pas une blessure souffrante, c'est une blessure de miséricorde. C'est une blessure de joie, c'est cette joie profonde qui porte Jésus d'ailleurs sur la croix, à par la puissance de cette joie, à s'arracher et à s'engloutir dans la blessure de son Père, pour que les deux soient glorieux, victorieux d'amour, persévérants jusqu'à la fin du monde, dans la présence miséricordieuse du royaume eucharistique, de l'humilité, de l'adaptation à chacun. Ce que dit le livre des Proverbes, vous savez, à propos de la manne, le pain qui descend du ciel, vous connaissez cette parole extraordinaire du livre des Proverbes, je crois bien. C'est que la manne qui descendait pendant les 40 ans pour le peuple d'Israël, prenait la manne. Et la manne, le pain qui descend du ciel, s'adaptait au goût de chacun. Magnifique ça. L'Eucharistie, Jésus, l'Eucharistie s'adapte miséricordieusement à chacun. C'est une adaptation, une humilité et une adaptation dans la douceur, une gentillesse, une délicatesse substantielle vis-à-vis de nous. Et ceci jusqu'à la fin. Nous sommes les êtres vivants de l'Eucharistie, nous sommes les êtres vivants de ce oui Eucharistie, cette action de grâce. Parce que c'est Marie qui a engendré cette douceur, cette patience, ce pardon, cette miséricorde. Le royaume de l'Eucharistie. Et c'est la paternité de Joseph qui, dans l'au-delà de l'unité d'eux en nous, l'engendre dans l'ajustement parfait de ce que nous sommes. Et nous acceptons ce que nous sommes lorsque nous sommes en eux. Et que nous jaillissons d'eux. Alors nous sommes debout. Et c'est ça notre force. Et cette force est là. Et elle n'est pas épuisable. Elle ne peut pas être vaincue. Elle ira jusqu'au bout. Elle ne nous fera jamais revenir en arrière. Elle nous pacifie, mais surtout, dans le débordement pacifique de sa surabondance en elle-même, elle fait jaillir cette petite lumière d'une joie, d'une force divine, invincible et sans limite. Qui est capable de brûler toute la paille et tout le plomb de nos déficiences. Ah, c'est sûr. C'est pour ça que j'espère que vous avez le petit livre de l'Apocalypse où on commente ces 14 derniers chapitres du chapitre 8, au chapitre 22, les 14 derniers chapitres de l'Apocalypse, cette descente, ce chemin de croix descendant de Saint Joseph, et qui vient rejoindre cette descente céleste de la Reine Immaculée de l'Univers, vers ces deux se rencontrent et font les sept coupes, la coupe parfaite. Ces sept coupes se versent sur nous. Alors oui, il y a la purification de la chair. Par surabondance et en plénitude surnaturelle, en puissance. changer les opinions par la suite, cette misère permanente. Ça vous paraît possible, ça? Ce serait très injuste de sa part. Marie ne peut pas être injuste. Elle est à l'intérieur de la justice, c'est-à-dire de l'amour substantiel. C'est pour ça que ce que ma Maureen m'a dit est si. Et je vous l'avoue, je n'y avais pas pensé. Pourtant, ça m'arrive d'avoir des pensées assez intéressantes. Et ma Maureen, ma soeur, se penchait. J'en ai une qui est beaucoup plus intéressante. Vous avouerez que ma soeur est pas mal. Eh oui, elle m'a fait miséricorde, elle m'a pardonné, pas demandé pardon, n'importe quoi, pas de son pardon. Elle m'a dit voilà, Saint-Joseph, c'est ça. Regarde, c'est ça, c'est bien, c'est beau, c'est vrai, c'est grand, c'est génial. Non, mais c'est absolument génial. Et en plus, c'est tellement vrai, c'est tellement exact, c'est tellement juste, c'est tellement évident. Tellement évident. Alors, bien sûr, bon, notre âme est donc totalement libre désormais. Bon, notre chair va être purifiée, et c'est pour ça que je vous dis, eh ben voilà, continuellement, dès que vous pouvez, voilà, vous avez une tendance à être avachi. Hein? Alors, dès que vous voyez ce mouvement d'avachissement, remettez-vous sur le trône, redressez la tête. Comme dit le psaume, la gloire du Seigneur me redresse la tête. Et ayant repris la position juste de celui qui s'est assis sur le trône, Saint-Joseph, du principe de la ressemblance de Dieu, je demande pardon pour ce mouvement qui m'avait mis antécédemment dans un état de serpère et de passoire, pour qu'on vienne dans l'unité des deux, la fécondité torrentielle, cette multiplication du Fils dans tous mes frères et dans toutes mes sœurs. Ce mouvement était un vrai mauvais choix. Et je devrais en porter les conséquences. Et ces conséquences, ce sera beaucoup de souffrances. Certes, ces souffrances ne seront pas portées intégralement par moi, puisque je n'aurai pas de force. Ce sera mes frères qui porteront ces souffrances à ma place. Ils le feront à eux soir. Mais soyons gentils pour nos frères. Alors, je demande pardon. Je pardonne et je reçois le pardon. À chaque mouvement, je me reprends en demandant ce pardon dans la coupe de l'Apocalypse. Dans la coupe aussi de la purification de la chair. Hein, Francesco, c'est ça. Ton âme est purifiée, mais pas ta chair. Ah ouais, je comprends pas. Alors, j'en viens à ce que je voulais faire depuis le départ, parce que ça, c'était l'introduction à la lecture. Quelle est l'arrivée?
Le 5h15.
Bon, allez, on va.
5h20.
Oh.
5h25. Est-ce que c'est clair pour tout ça, pour ça, pour vous, hein? Donc, purification de la chair, hein? Attention, je te demande pardon pour les conséquences, trois fois, pour le choix, mauvais choix. Qui était fier et qui suit toute ma vie, auquel j'ai toujours pas renoncé, sinon je ne referais pas sans arrêt ce mouvement d'avachissement.
Trois fois, vous avez dit.
Trois fois, chaque fois je demande pardon, je pardonne, je reçois le pardon.
Je n'ai pas compris, oui, ça va.
Donc 3 fois 4, 12.
Pourquoi je pardonne
3 fois 4, 12.
Ah, c'est 3 fois chaque.
Ah, bah évidemment.
Et pourquoi je pardonne? Je demande pardon, oui, mais pourquoi je pardonne? Puisque nous, on se surprend dans un, par exemple, un mauvais avachissement soi-même. Donc je pardonne, c'est pardon.
Ben, je pardonne, je demande pardon, et je reçois le pardon. Parce que je viens de Marie, Joseph vient vers moi de l'accomplissement des temps, Marie engendre en moi cet élan vers la fin, et je suis dans son union hypostatique, et reçoit ce pardon en moi. Donc les trois fois, je pardonne, je demande pardon, je reçois le pardon jusqu'à la racine de moi-même, pour le moindre mouvement. Par exemple, je dis... Quelquefois, tu fais des serments, vous voyez des gens dans l'assemblée, je dis... Ils n'ont pas fait attention. Alors, à ce mouvement, ils se reprennent, ils s'écoutent, ils se demandent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et bien, ils disent, je demande pardon, je pardonne, parce que j'ai fait donc j'en veux bien à quelqu'un. Donc, je pardonne, et puis je reçois le pardon. Et puis, mais derrière, il y a un choix quand même, un péché qui est loin derrière. Ouh là là, un mauvais choix. Qui est à l'origine de ce mouvement d'avachissement, n'est-ce pas? Bon, voilà. Pareil pour l'inquiétude. Vous avez une inquiétude. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi est-ce que c'est... C'est une inquiétude. L'inquiétude est un vice. Un vice, ça. Et si je m'inscris continuellement dans cette inquiétude, c'est un péché mortel. Je ne me complais pas dans l'inquiétude. Pourquoi l'inquiétude est un péché mortel? Parce qu'elle me permet de tourner toujours autour de moi-même. Hein. Alors, c'est une nourriture de l'égoïsme. Et c'est un manque de force. Et c'est un péché mortel. Donc, dès que je vois un mouvement d'inquiétude, mais ce mouvement d'inquiétude, vite, ce mouvement, je demande pardon. Je le mets dans le sang précieux de Jésus, dans le sang précieux de Marie, je pardonne. Et dans le sang précieux du Père, hein, dans l'accomplissement de l'Église, dans ce mystère. Hein, et voilà, et je reçois le pardon dans le fond de la coupe. Et puis, mais du coup, le mauvais choix qui est derrière, qui est un choix d'égoïsme, voilà. Je ne sais pas lequel c'est exactement, mais il parcourt pratiquement des années de ma vie, alors... J'y ai jamais renoncé. Mon péché et mon mauvais choix de vie, je demande pardon pour lui. Je pardonne. Je me pardonne à moi-même, par exemple. Ou, si je peux dire, puis je pardonne, voilà, à ceux qui m'en veulent parce que j'ai fait ce mauvais choix. Et je reçois le pardon. Et puis ensuite, tout ce qui m'y a amené. Enfin, voilà, cause, choix, conséquence. Et puis, toute chair d'Adam qui a vécu cette même délabrement, cette fissuration, cette... Bon, c'est pas très compliqué. Tiens, voilà, j'ai entendu un mouvement. Je sais pas si j'ai entendu ça. Lui, il a fait un mouvement d'accusation. Oui. Non, tu as fait un mouvement. Je n'ai pas besoin de vous dire où sont les mouvements. Vous les aurez tout le temps, les mouvements. Je n'ai pas besoin de vous dire quand est-ce que je vais avoir un mouvement. Attention, Christ déplacement, cristallisation, déni, justification.
Voilà.
Aïe, c'est encore un mouvement, la justification. Non, mais oui, mais parce qu'à chaque fois, il faut faire la purification de la chair. Je rentre dans le oui, je dis ce oui, je ne juge plus mes frères, et du coup, je rentre dans la purification de la chair, et je rentre dans le pardon. L'Immaculée Conception, c'est une miséricorde prévenante. Marie, Immaculée Conception, c'est avant Jésus crucifié. C'est une miséricorde prévenante, ce n'est pas une grâce paradis, du paradis terrestre, où Dieu crée Marie sans péché. Ça, c'est une hérésie condamnée par l'Église seule. Marie n'est pas une nouvelle créature parfaite sans péché. Parce qu'avec Ève, ça a mal marché, ça s'est empiré avec les filles de Caïn. Alors du coup, allez, le Seigneur dit, comment est-ce que je vais faire maintenant? Ah ben, on va faire Marie. C'est une hérésie condamnée par l'Église. Ce n'est pas une grâce de production, voilà, de patience de Dieu. Non, 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 c'est une grâce de miséricorde prévenante. C'est la miséricorde de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, l'eau, le sang, l'Esprit Saint, qui sont saisis et repris dans le principe et qui émanent dans le temps qui précède pour qu'il y ait cette miséricorde. Nous sommes, nous, aujourd'hui. Joseph, c'est pareil. Hein? C'est quand même avant. Et le mariage de Marie-Joseph, c'est pas avant. Et Jean-Baptiste, c'est pas avant. Et cette bénédiction palpitante qui a été donnée en communion à Abraham, qui a été placée en bénédiction pour qu'il puisse voir le monde nouveau de la fin, ce n'est pas avant. C'est une miséricorde prévenante. Et nous, nous sommes aujourd'hui, regardez ces 153 jours qui vont se dérouler devant nous, dans le temps de la miséricorde et de la purification de la chair. Parce que notre âme est parfaitement rétablie dans la sainteté accomplie. Mais notre chair n'est pas encore purifiée. Alors, par miséricorde pour nous-mêmes et pour nos frères, nous rentrons dans cette grande période du oui et du pardon. Et ces mouvements, vous comprenez, c'est le temps de l'oraison. L'oraison dans l'union transformante capte le moindre, le plus fragile, le plus subtil des mouvements et le donne dans la miséricorde du pardon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce mouvement ni en moi, ni dans mes frères. De sorte que je dis oui continuellement dans ma manière de faire oraison parce qu'il n'y a plus ces mouvements. Il n'y a plus ces mouvements. Alors, vous voyez, quand vous faites un mouvement, on dit « Ah, plus tu fais un mouvement, oui, oui, je fais un mouvement. » Non, non, ne fais pas ça. Fais « Oh, formidable. Je peux demander pardon. Je pardonne et je reçois le pardon. » C'est pas comme « Je reçois la miséricorde. » La plénitude reçue de l'Immaculée, c'est une plénitude reçue. La grâce nouvelle est une plénitude reçue. Et ce n'est pas une vertu infuse, gratuite, donnée comme ça, sans mérite de notre part. Parce qu'elle est donnée dans le mérite de ceux qui disent oui et se consacrent. Et ils reçoivent par des actes quand même. Il faut des actes, hein, des actes de pardon. Des actes de pardon. Ces actes de pardon ne s'originent que dans nos mouvements. Parce que ces mouvements, du coup, atteignent tous nos frères et nos sœurs. Et quand ils sont à table, à côté de nous, etc., ah, ce mouvement de pardon nous est presque instinctif et nous portons les conséquences de leur mauvais mouvement. Et nous savons qu'ils auront cette souffrance. Et nous portons déjà à l'avance cette souffrance en acquiesçant à ce fait que nous porterons à leur place ces souffrances, qui sont les conséquences de leur mauvais choix. Parce qu'eux, ils le savent qu'ils doivent demander pardon pour ces mauvais mouvements et leurs mauvais choix. Ils ne le font pas. Alors, ils n'auront aucune force. Et ce sera la pure souffrance, sauf si je leur fais miséricorde avant. À l'avance. C'est ça, les Gédéons, hein? Avec lesquels nous prions dans les prières d'autorité de la nuit. C'est eux, les Gédéons, c'est ça. Alors, là.
Si je peux le dire aussi, je sais que ça résonne dans les mains, simultanément, comme vous avez dit qu'on était choisi, simultanément, quand on prend la souffrance, qui est par Dieu, la force en nous, bon, en même temps, on a le jugement de celui qu'on prend la souffrance.
Non, constater le mal.
On nous juge en même temps.
Constater le mauvais choix. Constater un mouvement, c'est quelqu'un au moment même où la chose sublime va être prononcée, commence à se remuer, fouiller dans son sac en faisant brouiller le plastique à mort, pour dire tiens, j'ai une dévotion à dire, j'ai oublié de la dire il y a 5 minutes. Vous constatez.
Un témoin,
que c'est un mouvement qui se trouve dans un choix vraiment de mal, en le couvrant d'une justification de bien, et qui est terriblement vicieux parce qu'il est une d'apprentissage de ces vertus surnaturelles. Ce ne sont plus des vertus acquises aristotéliciennes ou stoïciennes ou humaines ou de sagesse naturelle, mais ce sont des vertus surnaturelles. Ce sont des vertus surnaturelles d'actes de charité inscrits dans l'invincibilité d'une miséricorde prévenante pour nous-mêmes, pour l'ouverture de l'humanité tout entière accomplie dès maintenant en son germe jusqu'à son épanouissement dans la fin, et pour une miséricorde aussi pour Dieu, parce que Dieu souffre, il y a la souffrance tout de même de la divinité toute pure à l'intérieur de Marie, la divinité toute pure à l'intérieur de ceux qui sont ses membres vivants sur la terre. Divinité toute pure des 3330 Gédéons de la terre. Miséricordieux pour les saints, quand même. Ah oui, non, ça j'ai jamais vu ça de ma vie, moi.
C'est les médias qui nous font toujours au nom de la charité, au nom de l'égalité en ce moment, nous faire avaler les couleurs, on nous taxe, on est en train de tout casser le système. Au nom toujours du bien. C'est diabolique, ça.
Est-ce que ça t'énerve?
C'est le mensonge qui m'énerve. Ça m'énerve pas, mais c'est du mensonge, je vois que c'est du mensonge.
Oui, mais ça te... Ça te...
Je m'en fous, je sais où on va n'importe comment. Ça ne fait plus rien.
Bon, je pardonne, je demande pardon, je reçois le pardon pour tout, je traverse et je prends sur moi les conséquences de ces mauvais choix. Mais je choisis d'être un enfant de lumière pour être derrière tout ça et que tout ça soit derrière nous. Et je ne m'en occupe plus. Je ne m'en occupe plus, je ne suis plus prêt. Occupé par ça, puisque je suis prêt, justifié dans la miséricorde des enfants de la justice du monde nouveau. Donc je rentre dans la purification de la chair. Mon âme déjà purifiée, mais ma chair ne doit plus être porteuse de toutes ces mauvaises inquiétudes, pusillanimité, destruction. Notre chair doit se finir à l'âme quand même, dans l'unité de l'esprit. C'est la personne qui doit rentrer dans la communion des personnes, la sponsalité. Les noces de l'agneau. Ah oui, j'entendis la voix d'une foule immense. Oui, pardon, autant pour moi. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une grande voix d'une foule immense. La présence d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu », chapitre 19. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Ils sont véritablement justes. Et justes véritablement. Il a jugé la grande prostituée corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs répandu par ses mains. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, 8 plus 8 plus 8, et les 4 animaux, l'unité hypostatique du Verbe messianique du Christ crucifié, se prosternent et adorent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Ce passage est admirable. Les 24 vieillards, le Christ ressuscité, toute la gloire de la résurrection se prosterne. L'union hypostatique de Jésus, les 4 vivants se prosternent devant le trône. Le trône. Le trône du Père, de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et vous l'avez vu, je suppose, vous vous rappelez que le trône de Dieu, c'est un trône solide. Et que ce trône représente la gloire du Père. De celui qui est juste, ajusté au Père, et tout glorieux de la résurrection. Et où la personne, première personne de la Sainte Trinité, peut s'asseoir. C'est la gloire de la résurrection au Saint-Joseph, le trône. Eh bien, il est dit dans l'Évangile que Jésus, dans la Sainte Famille, est passé du Temple à Nazareth, et il s'est soumis. Il a été soumis. Et là, c'est pareil, il y a eu 24 vieillards, 888, et les 4 vivants sont sous Saint-Joseph glorieux, Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce que dans Saint-Joseph glorieux, vous le savez, ça a été déjà dit avant, dans les chapitres 15, 16 et 17, dans le trône glorieux, au cœur du trône glorieux, il y a l'agneau. Il porte la blessure du cœur glorifié, et le passage dans l'essence substantielle, à travers la blessure du cœur, de la déité toute pure du Père. Alors, les gloires de la résurrection sont en prosternation, et le mystère de l'incarnation en prosternation, Jésus, devant Saint Joseph, qui est l'intermédiaire à la pénétration dans l'essence toute pure de la déité essentielle de Dieu en le Père. C'est marqué là. Une foule immense. Et ils disaient tous, Amen, Alléluia. Alors, sortit du trône une voix, une présence, oui, la voix du Père, qui disait, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le bruit des grands tessons, comme le fracas de puissants tonnerres, disant Alléluia, car il règne le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, rendons de victoire, car les noces de l'agneau sont venues, son épousée s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir du vêtement de l'impur, éclatant et immaculé. C'est génial. Et ce fin lin, ce sont les vertus des saints. Nous sommes des êtres de lumière, de pardon, de miséricorde. La vertu des saints, c'est la charité des derniers temps. Elle est invincible. Lorsqu'elle vient du trône. Et ces sacerdoces, ils sont vêtus de lin fin. Le sacerdoce des enfants de la terre, des apôtres des derniers temps. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors je tombe à ses pieds pour l'adorer. La grandeur de la paternité de Dieu s'exprime en cette présence-là, de l'intérieur de l'agneau, sur le trône. de Saint Joseph glorifié, laissant passage libre à la déité toute pure, hein, de l'essence substantielle de la paternité de Dieu, à sa communication de ce qu'il a en lui-même, en sa paternité, pour se répandre dans l'axe, dans le ravissement de ces multitudes, de ces multitudes, de ces multitudes, de ces multitudes sacerdotales, royales, immaculisées. Saint Jean, il dit, mais voilà, on se met bien à genoux pour se prosterner devant le Saint-Sacrement. Alors, il se prosterne devant cet ostensoir, la paternité incrée de Dieu. Hein? C'est bien ça qui s'est passé. Voilà ce que fait Saint Jean. Mais lui, il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, je vois le ciel s'ouvrir, le monde angélique s'ouvre. Pour pouvoir adorer Dieu et faire la différence entre Saint Joseph et Dieu, il va falloir l'exercice final du monde angélique. La grandeur de Saint-Joseph, déjà, dans le principe, mais alors dans la fin, est inouïe. Et il parut un cheval blanc. Et celui qu'il montait s'appelle Pédèle et Véritable. Il juge, combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Il avait sur la tête plusieurs diadèmes et portait un nom écrit que nul ne connaît que lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Son nom est Logos, tout est ouvert de Dieu. Et les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin fin, blanc et pur. Vous voyez, ils sont debout. Ils sont humbles, ils ont la virginité de la Jérusalem glorieuse dans sa source, le Père. Ils sont debout, hein. Et là, enfin, le sacerdoce nous met debout, hein. Le sacerdoce final, hein. C'est la force des pauvres. De sa bouche sortait un glaive affilé, voilà la transverbération glorieuse, à deux tranchants. Les deux tranchants, la transverbération, c'est l'aspiration passive dans l'Esprit Saint, l'aspiration passive dans le Verbe. Et surtout l'unité, et l'au-delà de l'unité des deux, voilà le deuxième tranchant. C'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer. La royauté. Le sceptre de fer, et la croix glorieuse, quoi. C'est la justice, hein. La justice, c'est un sceptre de fer, c'est la croix glorieuse. Elle a émané de la fécondité paternelle de Jésus et Joseph dans les enfers du grand sabbat. Et c'est Marie qui a reçu ce sceptre de fer. Elle est la reine et c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La cuve du vin, 40. 1600 stades au carré, c'est la purification à la puissance du Verbe. En la discrétion, la délicatesse, l'adaptation, l'ajustement de Saint Joseph en chacun des pauvres de la terre, qui sont vêtus de lin fin et qui disent Amen, Alléluia, elles sont venues les noces de l'agneau. C'est ça notre spiritualité. Là, oui, c'est une spiritualité, ça. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il portait écrit ce nom. Voilà, il portait déjà un nom que lui seul connaît, Logos, tout est ouvert de Dieu. Mais sur sa cuisse, il portait écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange debout dans le soleil. Vous voyez, la divine volonté qui efface les étoiles et tous les saints, même la sainteté. Des plus grands. Et cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Le festin de Dieu, c'est la nourriture. La nourriture, c'est Jésus crucifié. Jésus crucifié, c'est l'immolation. L'immolation est inscrite à l'intérieur de la paternité de Dieu. Dans le trône de Dieu, il y a cette immolation. Et elle est la porte du flux, du reflux, du baptême, du bassin dans lequel nous plongeons pour la transformation. C'est la transformation de Dieu que Joseph demande. Pas la transformation surnaturelle de la grâce sanctifiante chrétienne. Saint Joseph demande la transformation de Dieu. C'est pour ça qu'en au-delà du bassin, au haut de la montagne, nous voyons dans l'unité d'amour des cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, nous voyons cet au-delà, hein, et elle vient dans le trône, puisqu'elle en est le principe de notre côté dans le chemin de croix descendant, et de l'autre côté, dans ce qu'il porte de la voix du Père. Sa présence. De ce côté, le passage se fait du flux du reflux. Et nous passons donc de l'union transformante de la grâce sanctifiante à l'union transformante du plongeon dans le bassin de la déité toute pure. Puisque s'écarte de cet amour, de ce vêtement, de ce trône, s'écarte précisément lorsque nous y sommes dedans. Avec eux, nous voyons s'écarter le voile du pur amour de Jésus, Marie, Joseph, dans le Verbe de Dieu glorifié, roi des rois, Seigneur. Il s'écarte ce voile et du coup, nous voyons le bassin, c'est-à-dire nous voyons le bassin, nous voyons l'océan, nous voyons au-delà de la mer de cristal qui s'est ouverte, la voix, le Père, le Saint, du Père, la déité substantielle du Père. Et puis nous laissons revêtir dans les noces de l'agneau par le revêtement de la divinité toute pure, de l'innocence divine triomphante du Verbe de Dieu fait chair dans notre sang, dans notre nature, dans notre Amen, dans notre Alléluia sacerdotal, rassemblant toutes les multitudes de ce même Alléluia pour pénétrer et nous laisser engloutir dans le baptême de l'essence toute pure substantielle de Dieu le Père, et dans son sein nous nous laissons transformer en se plongeant, cet engloutissement, cette immersion, cette attente, en cette disponibilité assumée, en cet embrassement, en cette consommation de toutes choses environ une demi-heure. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des soldats vaillants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Nous aurions porté la chair, la purification de la chair, du corps spirituel venu d'en haut, de tous nos frères, de toutes nos sœurs, pour qu'ils puissent ainsi, au bout de 153 jours, trouver eux-mêmes la force qu'ils n'avaient pas pour porter les conséquences de leur souffrance et rentrer eux-mêmes dans la purification de la chair, puis la divinisation de leur chair, et pour qu'ils soient, qu'ils soient l'expression accomplie du royaume de Dieu, dans le règne du Sacré-Cœur accompli. Et je vois la bête et les rois de la terre avec leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui par les prodiges faits devant elle avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image, et tous les deux furent jetés vivants dans les temps de feu. Voyez, c'est au bout de ces 20 ans de transformation de la miséricorde des enfants de Dieu dans le mystère de l'agneau qu'il va y avoir la disparition de l'Antichrist. Devant le mystère admirable de l'ascension du paradis et du monde angélique dans les noces de l'agneau, à cause de celui, les petits de la terre que nous sommes. Nous sommes les enfants de l'Apocalypse, et c'est par nous que Marie et Joseph ont engendré cette victoire qui est au fond le fruit de la terre, et le reste fut tué par le glaive, la transverbération qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Tout le reste est purifié par le mystère de la transfiguration. Et tous les oiseaux, les contemplations, les contemplatifs, se rassasient du corps spirituel, pas de leur chair, de tous leurs frères. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et tous les contemplatifs, se rassasient, vont se nourrir de la nourriture du corps spirituel de tous leurs frères qui sont arrivés au mariage spirituel eux-mêmes dans la divinisation, pas seulement la purification, mais la divinisation et l'accomplissement du fruit de la terre qui permet précisément l'ouverture de la terre et l'engloutissement de l'Antichrist, sa disparition, la victoire de l'agneau. Et la transverbération fera le reste. Et du coup, nous nous nourrirons de la chair. C'est-à-dire, nous nous rendons de la chair, c'est-à-dire du corps spirituel, venu d'en haut, de tous nos frères qui seront portés dans la miséricorde, et eux-mêmes feront de même. Et cette nourriture sera une seule chair. Et je vois descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme avec une grande chaîne. Vous voyez, c'est Saint Joseph sans arrêt. Hein. Saint Joseph sans arrêt. Il n'y a pas presque un verset où ce n'est pas Saint Joseph. Hein. Vous le voyez quand même, c'est noir sur blanc, c'est pas moi qui invente. D'ailleurs, celui qui rajoute un mot, vaut mieux pas. Hein. Celui qui en retranche aussi. Donc, Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et l'enchaîne pour 1000 ans. Il l'enchaîne dans l'Immaculée Conception, dans le temps, dans la source du temps, dans l'Immaculée Conception. C'est ça les 1000 ans. C'est-à-dire, dans cette force et cette puissance de la louange de Marie, cette gloire de tous les temps, cette onction messianique, cette royauté qui est la sienne, qui fait d'elle, dans la lumière, la vie. Elle est un être de vie. Et cette vie fait qu'elle est source de tous les temps. C'est ça les 1000 ans, hein. Nous l'avons déjà dit, ça, hein, je crois, nous l'avons expliqué. Et il le jette dans l'abîme qu'il ferma à clé et scella sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent écoulés. Et après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Voilà, il va y avoir quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que ce temps de l'immaculation, est-ce qu'il va durer quelques jours, quelques demi-heures, quelques minutes, je ne sais pas. Mais le temps suspendu est un temps de cinquième demeure, hein, Saint Joseph, et du passage de Dieu. Et puis, après, c'est laissé, et le temps de l'Antéchrist viendra. Mais il ne durera pas longtemps. Pour un peu de temps, un temps court, vous savez, c'est 1002. C'est finalement assez peu, c'est pour ça que on dit... Mortem tua manunciamus domine. Ta mort, Seigneur, nous la proclamons. Nous sommes la proclamation. Nous sommes de l'intérieur la proclamation de ta mort. Et puis on dit Mortem tua manunciamus domine. Comme quand on fait l'encens autour des oplats. Deux fois. Trois fois et demi. Mortem tuam annunciamus domine tuam resurrectionem quand fit amor. Avec la croix. Danec venias. Et à chaque fois que nous faisons ça, nous traversons à l'avance, mais victorieusement, la première année, la seconde année, la troisième année et la demi-année du règne de l'Antéchrist. Dans l'éternité de l'encens, et puis après, nous continuons parce que ce n'est pas la fin. Mais les enfants de l'Apocalypse doivent traverser tous les sauts de l'Apocalypse, tous les temps, jusqu'à la fin, victorieusement, sans secousse. Sans aucune secousse et sans aucune inquiétude. C'est ça cette grâce qui nous est donnée dans le oui de ce que nous sommes. Alors je vois des trônes où ça, c'est des personnes à qui pouvoir de juger et de donner. Et je vois les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front, sur leurs mains, ils eurent vie. C'est le sixième saut. Ils sont emportés. Première résurrection. Et c'est pas la résurrection de la fin. Hein. Quand on va voir ça, alors, je serai rassasié. C'est dit, ça y est, depuis le temps que je l'attends, ça. Être emporté à travers les airs, c'est-à-dire à travers la vie contemplative. Quelquefois, je suis comme vous, je suppose, hein, donc je ferai raison. Quand l'abolition de tout mouvement est accomplie par grâce de Dieu, hein, assomption intérieure, grâce de mouvement est accomplie, puis même l'air ne passe plus. Dieu passe, quoi, je suis conscient de ce qui se passe, puisque le temps, j'acquiesce à ce que Dieu fasse, suspendre le temps de l'oraison en moi. Bon. Et lorsque je vois que le temps est suspendu, je suis capable de dire, oh, Seigneur, tu m'emportes dans le temps non spatial. Enfin, c'est une manière de dire, c'est pas ça, comme ça que je le dis, mais je veux bien partir en bilocation, si vous préférez, ou en bitemporisation, enfin, comme vous voulez. Je suis dans le temps en instant présent, puis être dans un autre temps. C'est ce qu'expliquait Saint Patrick. Hein. La grâce chrétienne nous met en bitemporisation, en tritemporisation, en multitemporisation, en myriaditemporisation. Pour tous les temps futurs jusqu'à la fin, Saint Patrick expliquait ça. Voilà ce que fait la grâce corporellement. Voici que vous traversez tous les temps futurs et vous y revenez avec ce qu'ils ont produit dans l'instant présent, invinciblement. Alors, je me vois pas, bien sûr que non, mais puisque c'est pas comme ça, mais le Dieu passe et lui, il est à un endroit et je sais pas où je suis. Mais je suis là où mes frères et sœurs m'attendent. Je ne sais pas quand c'est, je ne sais pas où c'est. Mais très le désir spirituel, le désir surnaturel, le désir d'acquiescement à ce que Dieu veut est là. Et donc je suis tout à fait d'accord de partir en. Non, c'est pas la bilocation, vous sentez bien, c'est pas ça. De partir là où Dieu va avec moi. Et ça dure. Une demi-seconde, de toute façon, elle donne l'impression de durer plus longtemps. Et puis, de toute façon, je reste tout à fait conscient parce que je sens parfaitement mon poids sur ma chaise. Et l'engourdissement de la disponibilité naturelle de mon corps actuel. Hein, et aussi l'écoulement d'en haut de l'âme de vie dans mon corps spirituel qui me permet précisément au Père de se servir de moi comme instrument de miséricorde. Même si j'y fais rien, mais le seul fait que je sois là. Vous voyez, je me rappelle ce que nous avait dit Francine. Ah, j'avais beaucoup aimé ça. Jésus m'a pris comme ça. Et puis il m'a dit, mais alors, il m'a pris comme ça. Il a dit, mais suis-moi. Il m'a pris un peu par le bras. Il m'a dit, voilà, viens. Et il m'a fait traverser des espaces. Il m'a fait traverser des espaces. Je suis arrivé dans des espaces, bon. Puis c'était noir, je ne pouvais pas savoir où on allait. Donc il me disait, tu me suis. Il y avait la lumière, je pouvais le suivre. J'avais un petit peu de lumière, je pouvais le suivre. Je suivais. Puis j'aime bien être avec Jésus quand il m'amène comme ça. Et puis il m'amène à des endroits. Et puis à un moment donné, il commençait à y avoir comme des présences, hein, des gens qui étaient là, dans la ténèbre. Hein, dans la ténèbre. Hein. Ils étaient restés dans la ténèbre depuis longtemps, mon Dieu, là. Et ils ne voyaient rien du tout, là. Ils étaient... Mais moi, je ne les voyais pas, mais je les voyais. Alors, comme il s'approchait d'eux, il allait les traverser, il s'est arrêté, il m'a dit, maintenant, c'est toi qui passes devant. Dis-moi. Est-ce que vous vivez dans la cinquième demeure de la raison? Vous allez voir vos frères, vous suscitez en eux l'amour par la gentillesse, la miséricorde. Nous sommes des enfants. C'est comme ça que nous prions. Voilà ce que Jésus a fait pendant 153 jours. Avant le baptême de l'eau. Et tu sais le bien de du Père. Voilà ce qu'il a fait. Les gens ont aimé le passage de ce saint d'Israël, c'est de fils d'Israël, c'est vraiment un fils d'Israël. Là, ils ont cru en Israël qu'Israël soit capable de produire des hommes comme ça, si sympathiques, si merveilleux. Enfin, pas si sympathique, c'est pas un mot, c'est pas le mot sympathique, mais c'est quand même agréable. C'est comme la visite de quelqu'un qui vient, c'est presque un ange. Ça fait plaisir, hein, quand vous avez rencontré une fois ou deux, dans, ou sept ou quinze ou mille fois dans votre vie, un saint du ciel. Hein. Un jour, j'étais à Cotignac. Ah, je sais pas si tu connais. Ça te fait rire?
Non, c'est vivre d'avoir rencontré.
Oui, d'avoir rencontré un vrai saint, ressuscité. Enfin, oui, oui, j'ai donné la communion. Je sais pas quelle fête, je ne me rappelle plus. Et les frères m'avaient fait sortir dehors. Alors, j'ai donné la communion dehors, dans le parvis. C'était une peut-être. Je ne me rappelle plus quelle fête c'était. C'était rare quand même que je célèbre les messes à Cotignac. Bon, et que je célèbre, qu'on célèbre les messes à Cotignac. Je demande pardon, je pardonne. Amen. J'ai fait les 12 là. Et je donne la communion. Alors, 3 jours avant, il y avait une femme qui était juive, mariée avec un juif, et il m'avait expliqué la signification de la menorah. C'est pas dans les livres. C'est la tradition orale juive. Et il était catholique. Elle était morte combien? Une semaine avant. Une semaine avant. J'étais pas venu à son enterrement, je les aimais bien, mais bon, j'étais pas venu à son enterrement. Elle était morte, allez, je sais pas combien, je dis, allez, disons, 8 jours avant. Et puis donc, je les connaissais bien, moi, les gens-là, depuis 10 ans que j'étais là, je les connaissais bien. C'est comme si ma Maureen meurt, et puis que je la vois arriver dans la fille, puis c'est ma Maureen qui arrive pour communier, je vois bien que c'est ma Maureen, je suis pas idiot. Elle
s'occupait de tout, au sanctuaire, alors tout le monde la connaissait.
Alors, elle s'approche, habillée comme d'habitude, normal, pour la communion. Je prends l'hostie, je dis, ben, c'était elle. Alors, elle voit bien que je vois que c'est elle. Alors, elle me fait un petit moment, uniquement ses yeux. Si. Allez, donnez-moi la communion quand même, uniquement ses yeux. Alors, je dis, corps de Christ, et je lui ai donné la communion. Elle est partie. Elle est partie dans le groupe des gens qui étaient là sur les côtés. Puis quand j'ai terminé la communion, j'ai fait semblant de regarder si quelqu'un, tout le monde avait bien reconnu la communion, Carmen n'était plus là. Elle n'était pas resplendissante, elle n'était pas lumineuse, elle n'était pas là, mais quand même, c'est curieux, elle avait besoin de communier à l'extérieur du parfait. Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Je n'en sais strictement rien, puisque le jugement est derrière nous, et je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais d'autres fois, on trouve, c'est des multitudes de fois qu'on voit Saint-Joseph et on ne le sait pas, qu'on voit Jésus et on ne le sait pas. Combien de fois il se cache dans quelqu'un qui est, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais connu, qui est très, 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 très souffrant, très pauvre. Ou très très jeune, très limpide.
Père, tu sais pourquoi elle est venue. C'est parce que tu n'as pas participé à ses obsèques. Elle a voulu que ce soit toi, ton frère, prêt, lui donne la communion.
Sûrement. Je ne sais pas, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici, c'est quand vous rencontrez Les premières fois que j'ai confessé, j'étais ordonné prêtre en 1986, et 8 jours après, j'ai raconté quelques fois cette histoire. Je vous ai raconté, bon, je ne la raconte pas alors.
Une très belle histoire de communion, vous savez. Oh,
confession, là.
Oui, oui, confession. Elle est très belle, celle-là.
Je venais d'être ordonné prêtre. C'était il y a 30 ans, à peu près. Un peu moins. Et donc, je vais... C'était... À Montmorin. Donc à Montmorin, je descends de la montagne de Montmorin. On fait une petite pèlerinage et on va jusqu'à Rimont ou quelque chose comme ça. C'était le dimanche 21 septembre 1986 que tous mes 12 frères de Saint-Jean étaient ordonnés, ceux qui étaient frères avec moi, hein, qui étaient ordonnés pour la même année. Il y avait Père Dominique Marie, il y avait les trésors. Alors, moi, j'ai prêt depuis une semaine, je dis bon, alors, tu te mets dans la prairie, tu mets une étole, puis tu fais les confessions. Avant d'aller là, l'avant-veille, j'étais à une fête à Notre-Dame-du-Los, et l'évêque m'avait dit, bon, je vous ai ordonné prêtre, vous allez dans ce confessionnal. Alors, vous faites des confessions, c'est la fête de Notre-Dame-du-Lors. Je savais pas par cœur. Je connaissais pas les formules, moi.
Ah oui.
Et Dieu, tombé à ta montre, ça me disait quand. J'avais pas les papiers, j'avais rien. Je me suis mis dans le confessionnal. Et il y avait une fougue. Il faisait la queue. Et je me disais, Seigneur, Seigneur, que personne ne vienne. Et malheureusement, quelqu'un est venu. Il a frappé la porte, il a ouvert, hein. Il m'a vu. Il a refermé la porte, il est parti. Alors, c'est dans ces conditions que j'arrive à Rimont et je me mets dans la prairie. Je me mets dans la prairie. Et voilà, les gens viennent se confesser. J'avais l'étoile rouge, la robe blanche. Et puis, bon, à un moment donné, les gens se... J'avais du monde, hein, oh là là, qu'il y avait du monde. Parce que, quand même, pour une vingtaine d'ordinations, vous imaginez le monde qu'il y avait, quoi. Hein. Ça, pour mon ordination, personne ne vient, on était 600, alors, ouais, bon, peu importe, tant que c'est. Bah, je sais pas combien. Bon, peu importe, donc il y avait bien des gens qui faisaient se confesser, beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. Parce que chez les frères de Saint-Jean, j'étais le plus vieux. Et à un moment donné, donc il y avait des jeunes qui étaient là, en blouson noir, tête de mort. Il n'y avait pas encore les pins ici, là. Bon. Mais enfin, c'était l'équivalent de l'époque, quoi. Donc, des trucs, tête de mort. Puis ils viennent se confesser les uns après les autres. Puis, je dis voilà, demande bien pardon. Puis, moi j'avais que comprendre, le père Manel le faisait. Bah, peut-être qu'il pouvait les aider à sortir quand même une chose difficile. Bon, ben, tu peux y aller, vas-y, n'hésite pas, ça prend pas. Et tu t'apercevais que les uns après les autres, c'était des jeunes du monde d'aujourd'hui. Mais ils étaient catholiques, enfin ils étaient catholiques, ils étaient jeunes. C'était des êtres d'une pureté parfaite. Tu les aurais mis en enfer au jugement, hein, sinon, normalement, dans la vie quotidienne. Et t'aurais fait part. Une pureté du cœur parfaite, si bien les uns que les autres. Je dis, mais ouais. J'étais impressionné. Et il demandait pardon, sur l'absolution, leur faute, tout ça. une humilité, une simplicité déconcertante. C'était des jeunes, voilà. Ils avaient l'apparence, ils se fondaient par miséricorde à toute la jeunesse, mais leur cœur était chrétien, il était immaculé. Leur âme aussi. Parmi eux, il y avait une petite brunette. Et puis, derrière, avec elle, une petite... légèrement chevelue, chouette. Elle était bien. 16 ans, 17 ans à peu près. C'est de l'époque première terminale, si vous voulez. Ils venaient voir leurs amis qui allaient être prêtes, là. Et des jeunes. Ils disent quand même, c'est fou, quoi. Hein. Je suis moine, il a tenu le coup jusqu'à maintenant, et maintenant il veut ordonner. Impressionne, hein, le frère, la soeur, le cousin, les amis des cousins. Et là, une fois ou l'autre, ils en faisaient partie. Puis elle se met à genoux, et puis voilà. C'est son tour qui arrive. Et donc, elle dit voilà, dans l'espèce du Fils, d'esprit. Et elle pleure. Elle avait une contrition extraordinaire. Une contrition. Et les larmes coulaient. Les larmes coulaient, pas une goutte après l'autre, c'était un ruisseau, comme ça, un petit ruisseau, continuel, qui coulait de contrition. Et c'était dit. Vraiment, je ne sais pas faire. Il aurait bien vu que je fasse comme à Notre-Dame du Lourdes. Hein. Ah, puis, à un moment donné, je ne sais pas, je me dis peut-être que le Seigneur peut éclairer. Alors, donc, parce que ça faut être les premiers pas. Hein. Vous n'avez pas la grâce de sacerdoce tout de suite. Il faut les vertus sacerdotales. Hein. Petit à petit, à force de faire les actes héroïques, pour que ce soit le Saint-Esprit qui confesse. Et pas vous. Hein. Donc, et que ce ne soit pas un lieu de torture, mais un lieu de bien. Comme a dit Saint-Père, tant l'exhortation apostolique, non pas un lieu de torture, mais un lieu de bien qui ne s'arrêtera plus. Hein? Alors, c'est ça qu'elle m'a appris, cette petite, parce que, effectivement, je me suis dit, bon, ah, je me suis dit, ah, voilà, Saint-Esprit, j'ai eu, oui, bien, ça, c'est un, peut-être un coup de Saint-Esprit. Oui, mais oui, bien sûr, elle est là, ils donnent leur vie à Jésus, là, et elle s'est dit, peut-être que je dis, peut-être que c'est vous résister à la volonté de Dieu. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'elle résistait à la volonté de Dieu. C'était touchant, ça, elle pleurait beaucoup. Ah, elle a dit non. J'étais désespéré. Elle a peut-être senti que j'étais un peu désespéré. Alors, elle dit, mais qu'est-ce Et elle a commencé à sortir avec ses lèvres, elle a dit, oui, c'est parce que... Elle a dit, mais depuis la dernière confession, ben... Alors elle me dit, oui, ben, c'est parce que... Et alors là, c'était pas un petit ruisseau, je n'ai jamais vu autant de larmes sortir, c'est une contrition aussi abondante, jamais. Mais c'était pas du sang, hein, c'est vrai, c'était que de l'eau. Et si j'ai, depuis la dernière confession... À un moment donné, j'ai laissé passer quelques instants de prière au lycée. J'ai laissé passer quelques instants de prière. Et la contrition qu'elle en avait. Alors, je ne sais pas ce qui m'est sorti de la bouche. Ça m'est sorti de la bouche comme ça, hein, je veux dire, je l'ai pas inventé, c'est pas sorti de moi, ça je peux vous le dire. Je dis, ça c'est pas bien. Ah ça non, c'est pas bien. Alors du coup, elle s'est arrêtée de pleurer. Elle avait reçu la bonne parole. Dans l'union transformante, on va dans le mariage spirituel et il n'y a plus d'instant d'abandon. De l'union avec Dieu. Et je lui ai donné l'absolution. Elle est partie. Puis j'ai reçu d'autres confessions après. Mais j'étais quand même intrigué par ce petit groupe de jeunes. Ils étaient 7 ou 8, j'avais bien vu quand même le visage. Donc avant que la messe ne se concélébra, je vais et je fais semblant de passer par là, parce que j'avais bien vu où ils étaient partis. Donc, et je vois le petit groupe, très vite. Je dis, tiens, je vais quand même, ma curiosité, vous voyez, un mouvement de curiosité. Et puis j'ai été là, ah mais dis donc, mais ouais, mais vous n'étiez pas avec la petite aussi, et puis là, elle n'était pas partie de nous. Quoi, quelle petite? C'est comme ça, non, on ne l'a jamais vue. C'était Sainte Thérèse. Elle est venue faire miséricorde au prêtre pour qu'il puisse apprendre ce que c'est que le mystère de confession. Je ne savais pas ce que c'était que le mystère de confession. Et elle s'était mise avec un groupe d'enfants, de jeunes, enfin d'enfants adultes, quoi, quand même, qui étaient purs. C'est extraordinaire quand même ça. Visage beau, vous savez, visage beau mais simple, mais pas extraordinaire. Enfin, c'est pas l'apparition est puissante. C'est après, tu sais que c'était. J'ai reconnu que c'était. J'ai compris, c'est pas seulement compris, c'était Thérèse qui est venue faire cette confession. Vous voyez, c'est génial, qu'est-ce que vous voulez. C'est génial, hein, c'est génial. Hein. D'autres fois, je ne veux pas vous raconter ma vie quand même, d'autres fois, oh mon Dieu, alors là, voilà, qu'est-ce que ça m'avait fait, devant un apôtre comme ça, 18, 19 ans. Il me demandait la route pour aller à Saint-Pierre-de-Rome. Il revenait de l'Inde. Ce n'est qu'après qu'on sait. Je ne sais pas sur le moment. Moi, j'en partais. Il dit, moi, j'y vais. Est-ce que tout a une signification? Non. Ce qui a une signification, c'est le lien. Parce que l'Église est un tissu de relations personnelles. Et le flux et le reflux se fait entre les saints du ciel et les enfants de la terre. Et ce qui fait le lien, c'est la miséricorde. Nous sommes des êtres de miséricorde. Des êtres de miséricorde. De bonté. Le seul fait que cet enfant soit venu comme ça, je dis, puis c'est écrasé sur les marches à 2 km de Saint-Pierre-de-Rome et à 2,5 km du quart. J'étais écrasé, je crois que j'en pouvais plus. Je me serais éclaté la tête et j'étais épuisé. Et c'est là qu'il est venu pour me demander comment on faisait pour aller dans Saint-Pierre-de-Rome. Vous ne pouvez pas être plus épuisé que ce jour-là, cet instant-là. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai vu qu'il existait des saints dans la jeunesse d'aujourd'hui, parfaits. Et un réconfort, un réconfort, un réconfort. la manière toute simple, limpide et virginale, contemplative, surnaturelle, pure, mais cachée, hein, tranquille, une jeunesse invincible qui partait comme ça, elle me disait, un sourire, je ne sais pas comment vous expliquer. La jeunesse à l'état pur, debout, toute libre. Et d'une liberté, alors. Qu'est-ce que ça fait du bien? Un petit geste, bonjour, seul. Un seul contact de 3 secondes. Rien du tout. Nous sommes des êtres de miséricorde. Nous devons donner l'amour à nos frères. Il n'y a plus de jugement. Nous sommes partis du tissu désormais de leur cœur jusqu'à la fin. Alors, le temps va s'ouvrir. Le temps va s'ouvrir. Des choses toutes simples. Dans les petites choses, je me redresse. Dans la gentillesse, dans la délicatesse, dans l'amour. Et je fais miséricorde, je ne sais pas comment dire, c'est ça. Donc il y a ce je n'en veux à personne, c'est pas ça la question, je n'en veux pas. Les gens, ils sont là où ils sont. Tu crois qu'ils sont dans le blasphème? Ils ne sont pas dans le blasphème, puisqu'ils sont sur la croix. Ils ne sont pas dans la haine qu'on voit apparemment, puisqu'ils sont sur la croix, qu'on oublie trop souvent. Alors, bah, tu le vois, tu n'en sais rien, de toute façon, tu portes avec eux la souffrance et les conséquences de leur choix, si, et ils y sont, mais c'est pas toi, mais tu as de l'amour pour eux, tu te laisses toucher par eux, tu suscites en eux l'amour, et parce que tu es leur nourriture, et quelque part ils sont nourris parce que tu les as vus, tu as été souriant, tu as été bienveillant, ils ont bien vu qu'ils n'étaient pas jugés. Ils ont bien vu qu'ils étaient miséricordieux. Ils ont bien vu que tu étais prêt à passer et à rester dans leur cœur jusqu'à la fin. Et donc, quelque part, ils savent, et nous savons qu'au jour de la miséricorde du 5e saut de l'Apocalypse, ils se nourriront à nouveau de cette nourriture qu'ils auront conservée. Et ils seront avec toi. Et puisque tu portes à leur place les souffrances, des conséquences des mauvais choix qu'ils ne peuvent pas porter, ils se retrouveront dans ton âme, dans l'âme du Christ. Cette âme qu'il tient de l'unité spirituelle de Joseph et de Marie. Dans l'opération supervenue, intime du Saint-Esprit en elle. La pauvre pression du Père, tout ça est caché. Le Père qui est en eux. Et le Saint-Esprit va pouvoir faire surgir en eux le oui. Et petit à petit, dans les 153 jours de l'Église, ils trouveront la force paradisiaque de leur oui originel. C'est pour ça qu'il faudra compter, c'est ce que je dis souvent, c'est peut-être symbolique, 5 mois après, ce sera le grand miracle. Et toutes les forces du prophète Élie et du monde angélique dans le miracle transcellulaire. C'est ça ce qu'on appelle le grand miracle. C'est tout intérieur. Il y aura des signes extérieurs. Ça, on s'en fiche. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on va chanter justement Âme du Christ en l'honneur de ce qu'on.
D'ailleurs, 5 mois après quoi? Après les 153 jours?
Oui, il faudra bien qu'on ait la force puisque nous ne l'aurons pas. Mais nous aurons cette union dans l'âme et l'amour. La miséricorde sera là. Et donc il faudra bien que Dieu donne la force. Que le ciel donne la force. L'Église catholique, c'est ça, c'est un tissu de relations personnelles, tissé dans la miséricorde, la gentillesse, la délicatesse cachée, tranquille, libre, hein. Pas spontané, pas compulsif, vous voyez, pas... non, pas le moindre mouvement d'inquiétude ou d'énervement. Bon, on n'est pas énervé. Moi, ils n'étaient pas énervés hein, quand ils m'ont vu. Hein, Sainte-Thérèse, sachant. Pourtant, il y aurait eu de quoi. Hein. Mais à leur place, j'aurais été drôlement énervé. Et donc, ils apprennent, vous voyez, ils apprennent après coup à rentrer dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus. Est-ce que l'Immaculée ne fait pas la même chose? Est-ce que Saint-Joseph, est-ce que Jésus ne font pas la même chose tout le temps? Ben oui, souvent, même dans l'extérieur, même dans l'oraison, puisqu'il y a un moment toujours dans l'oraison. En fait, une demi-heure, il y aura toujours un moment où vous irez à la rencontre, Dieu vous mettra à la rencontre d'un de extérieur. Hein, de. Et vous ne le verrez pas, vous ne vous en rappellerez pas, hein, parce que ça dure tellement peu qu'on n'a même pas le temps de le voir. Mais bon, on sait qu'il y a eu ce passage, et puis il y a eu aussi un tissu. L'Église est un tissu de relation personnelle dans la chair, et la purification de la chair se fait dans cette miséricorde qui purifie toute chair. La charité. C'est la vertu de la charité. Nous n'avons plus, donc, pour résumer, ni la vertu de virginité, de charité. Nous n'avons pas la vertu d'humilité, nous n'avons pas la vertu de force. Mais nous allons grandir dans des actes de pardon, de miséricorde, pour voir grandir en nous la vertu de la charité venue d'en haut, dans l'âme, liée au cœur spirituel. La source, à ce moment-là, va agir, la seule source d'amour en nous, par la chair. C'est ce qui purifiera la chair, parce que nous tirons toujours cause, soit conséquence, pour les brûler dans cet acte-là. Alors, je fais miséricorde, prévenante. Je suis l'œuvre de l'Immaculée Conception. Avant l'ouverture du cœur du cinquième épisode de l'Apocalypse. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est mon âme, alors c'est leur âme qui elle-même sera remplie de force, leur chair devra souffrir. Mais ils souffriront peu les conséquences de leur choix parce qu'ils demanderont pardon. Et ils attendront la force dans l'Église de Jésus. C'est pour ça qu'il y a 153 jours, 5 mois. Car Abordal a dit 5 mois à cause de ça. Parce qu'il faudra le temps de l'Église pour ça. Ce ne sera peut-être pas 5 mois matériellement, mais jusqu'à ce que ça signifie. Hein?
C'est pour ça qu'il nous dit pour les moineaux, qu'ils ne toujours pas qu'ils ne s'inquiètent pas, ils doivent manger et ils lisent des champs.
Providence. Providence, dépouillement. Les êtres de lumière, leur premier acte, c'est le dépouillement. Je sais que je dois être totalement dépouillé de ce que j'ai, de tous mes biens, tous mes enfants. Vous savez, une maman, ses enfants leur appartiennent. C'est exaspérant, hein? Dépouillement. Le dépouillement, l'esprit de pauvreté. J'accepte mes pauvretés de fait, et j'accepte d'être dépouillé, fragile, déliquescent, et je suis l'enfant de la force du monde nouveau. Et je suis libre. Et je traverse toutes les noirceurs, puisqu'il n'y en a plus. Toutes les ombres et toutes les ténèbres.
Alors vous devenez esprit.
Oui, je deviens spirituel. Je deviens spirituel. Âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sang du Christ, enivre-moi, oh, du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Oh, bon Jésus. exauce-moi dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Âme du Christ, sanctifie-moi. Ils sont bien occupés, hein? Eh bien non, ils font partie de l'Église. Et je vous affirme qu'ils marchent sur les routes de la terre. Ils vont, ils voient beaucoup de gens. Ils n'arrêtent pas d'en rencontrer, d'en voir, de juste les frôler, c'est tout, de passer. Ils ont les pieds sur terre, les saints du ciel. Ils ne volent pas dans les terres. Le ciel et la terre sont ensemble. Et après l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse, ce sera beaucoup plus visible, parce que nos yeux seront moins fermés. Parce que quand on voit sur la terre quelqu'un marcher, un transformé vivant, qui est dans la vision béatifique cachée en lui, c'est reconnaissable en raison du produit qu'il engendre en vous, hein, du ciel dans votre terre, hein, le corps spirituel. C'est l'invincibilité, l'incorruptibilité, vous est immédiatement communiqué. C'est pour ça que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose C'est un saint de la terre, les saints de la terre sont au milieu de nous. Et il va y avoir, ils sont vraiment, hein, c'est pour ça que j'aime bien cette expression, il a bien les pieds sur terre celui-là. Hein. C'est pas un mystico-dingo. Hein. Vous verrez jamais un saint de la terre jeter les bras comme ça. Je viens te voir, je t'aime. Jamais, jamais, jamais vous verrez un saint de la terre. Il dira, tu peux pas me donner 100 balles.
J'en ai vu un autre fois, ça m'avait impressionné sous un pont. Bon, comme je regarde plus loin, j'avais pris toujours dans la voiture, j'ai quelque chose, je passe, bon, je vais lui donner. Il me sort sa main, il me donne une poignée de main avec un regard d'une beauté, d'une limpidité et une poignée de main. Il m'a dit cette commence là. Ah, j'étais pourquoi? Voilà, c'est moi qui.
Oui, c'est ça. Ils vont vous demander, jamais. C'est pas du tout. C'est aucune exaltation, aucune exaltation, aucune. Tout simplement pauvre. Pauvre, mais. Voilà. Vous connaissez tous la petite histoire, je raconte toujours quand on va à Carabandage, quand on regarde la petite balustrade à l'entrée, la maison de la maman de Marie Cruz. Marie Cruz, alors, la petite Marie Cruz, la maison, c'était les plus pauvres, ils étaient communistes. C'était quand même rare, hein, dans un petit village où tout le monde allait à la messe, tout le monde tous les jours au chapelet, tout le monde tous les jours au chapelet à l'église. Il y avait quand même. Cette famille, oui, il y avait bien sûr un représentant de la maison qui y allait, parce que c'est comme ça. Marie-Cruz et Marie-Cruz, ben, il y avait ces 1290 jours de visitation de la Vierge à rentrer derrière de la maison de Marie-Cruz aussi, la jeune Vierge. Bon, la maman était un peu furieuse quand c'était avant, quand c'était après, mais sur le moment, elle était très heureuse que la Sainte Vierge soit dans sa maison. Mais bon. Peu importe, c'est pas ça. La pauvre Marie-Cruz, elle avait des chaussures. Cette petite, la voyez, regardez quel âge elle avait. 12 ans, 11 ans. 12 ans, 73 ans. Bon. Des chaussures déchirées, il faisait froid, vous savez. Et puis, il fait froid là-bas, et puis c'est de la boue, hein. De la boue, de la boue, de la boue, vous sortez. C'était pauvre, pauvre. Puis, elle avait fait des petites économies comme ça. Elle avait eu comme ça, une scuda, je sais pas comment, parce que le truc en Espagne, là-bas. Elle avait eu. Accumuler un petit peu une petite pour pouvoir s'acheter une mauvaise paire de chaussures d'occasion. Et elle avait un sage, tiens, je vais pour y aller. Et puis quelqu'un a frappé à la porte en bas. Et puis c'était Saint Joseph, mais elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Et ce type était là, il dit, j'en peux plus. J'ai besoin de 3 escudos, je sais plus, c'est ce qu'elle avait pour acheter ses chaussures. Parce que je sais pas comment on se dit en Espagne, que la monnaie espagnole, tu sais pas. Enfin, ce qu'elle avait, quoi. Tout ce qu'elle avait pour s'acheter des chaussures. Donc, elle était contente qu'elle avait des chaussures. Elle l'a regardé, elle a dit, oh, si tu pouvais me donner 3 escudos, parce que vraiment, j'en ai besoin. Il a demandé ça tranquillement, normalement. Il était en pleine forme. Mais t'es un pauvre quand même. Hein. Saint-Joseph est pauvre, hein, substantiellement. Et il a frappé à des portes comme ça pour qu'il y ait une petite place pour Jésus. Il a frappé à des portes, hein, lui, en Égypte. Et là, il frappe à la porte de Marie-Cruz, Marie de la Croix, quoi. Alors, elle entend ça aussitôt, cette petite. Aussitôt. Elle se retourne sans hésiter. Elle monte son escalier, va dans sa chambre, elle prend les 3, quand elle descend, elle lui donne. Et tu remercies et il s'en va. Et c'est après qu'elle dit, c'est Saint-Joseph. Et après, quand elle était dans la foule, elle était la seule à le reconnaître. Et elle disait de la balustrade, là, tiens, c'est un jour où il y avait tellement de monde, vous savez, là, à Carabandal, tellement de monde à cet endroit-là. et qu'il y avait l'ange Gabriel, Raphaël derrière. Il y avait un de ses amis là, qui était du village d'à côté, qui s'appelait Gabriel. Et derrière eux, il y avait trois mecs, des beaux hommes espagnols, bien beaux, qui se ressemblaient un peu. Du même gabarit, si vous voulez. Bon. Alors Gabriel, donc son copain, il disait, c'est mon anniversaire, c'est ma fête. Alors, il y a un des trois qui était derrière qui dit, mais ça m'a sorti. Il dit, c'est ma fête à moi aussi. Un peu aussi Gabriel. Regardez. Il y avait les trois, c'était Gabriel. Mais il l'a su après, parce que c'est Marie-Cose qui l'a dit. Et puis elle a dit, si vous aviez vu qui était encore à côté de vous là, il y avait Saint-Joseph, il était là. Si vous saviez tous ceux qui étaient là. Et vous étiez là. Mais elle a vu, mais j'aime bien cette histoire. Il frappe à la porte, un pauvre type, il demande trois escotos. Richesse de Dieu qui les relève, qui les lève, et c'est l'amour, la miséricorde, voilà, la charité instinctive, immédiate. Voilà, c'est le torrent de leur liberté immédiate qui fait miséricorde à leurs frères et à leurs sœurs. Hein? Voilà. Si vous voulez bien, on va se préparer à la messe. Je ne sais pas du tout quelle est arrivée. Allez, on se donne un quart d'heure pour respirer un peu.